Podcast Unige.
Bienvenue sur Lifelong Learning at Unige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Je suis Raphaël Zafran, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir tous et toutes pour cette deuxième saison de Lifelong Learning à Tunige, un espace de discussion où des experts et experts de la communauté formation continue viennent nous parler de leurs programmes et des domaines de pointe auxquels ils touchent. Dans ce podcast, nous abordons les liens entre formation continue et marché du travail, les grands enjeux sociétaux tels que la transformation numérique et l'impact de l'intelligence artificielle, les défis liés au changement climatique et aux objectifs de développement durable, ainsi que ce que pourront être les compétences et les jobs du futur. Notre capacité à apprendre et à nous adapter est centrale à la notion de lifelong learning. Elle nous permet de prendre notre destin professionnel et personnel en main. Les biobanques sont des centres de stockage d'échantillons biologiques tels que le sang, le tissu ou l'ADN qui sont utilisés pour la recherche médicale et le développement de nouveaux traitements. Au cours des dernières années, les biobanques sont devenues de plus en plus importantes dans le domaine de la recherche médicale. Elles offrent une source précieuse de matériel biologique pour les chercheurs et chercheuses qui étudient les maladies, les traitements et les thérapies personnalisées. Dans cet épisode, nous explorons avec nos deux invités les différentes facettes du biobanking, y compris son rôle dans la recherche médicale, les défis de gestion de l'échantillon et de confidentialité des données, et les perspectives d'avenir pour les biobanques. Nous discuterons également du nouveau CAS en biobanking et comment cette formation arrive à point nommé étant donné l'essor des biobanques et le besoin grandissant en compétences pour les professionnels de la santé et de la recherche impliqués dans ce domaine de pointe. Nous avons le plaisir de recevoir Jean Villard, professeur ordinaire à la faculté de médecine de l'Université de Genève, ainsi que la docteure Christine Cura, directrice exécutive depuis 2015 de la Swiss Biobanking Platform, l'infrastructure nationale de coordination des activités de biobanking en Suisse. Nos invités sont respectivement directeurs et membres du comité directeur du nouveau CAS en biobanking, une formation continue de l'Université de Genève en partenariat avec l'Institut Pasteur, la Swiss Biobanking Platform et la Fondation H7. Professeur Jean Villard, docteur Christine Cura, bienvenue sur Lifelong Learning à Tunige.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Raphaël.
Alors, tout d'abord, pour nos auditeurs et auditrices non experts, non expertes, pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est une biobanque concrètement ?
Alors, une biobanque, c'est à la base une collection d'échantillons biologiques. Historiquement, c'était relié, une biobanque est un congélateur, mais c'est bien plus complexe que ça. Et ça part de l'échantillon qui est prélevé sur un participant, qui est traité, collecté, traité, stocké, mais qui doit aussi être valorisé pour la recherche. Donc il y a des infrastructures qui organisent ces biobanques et qui conseillent les investigateurs pour créer des biobanques pour la recherche.
Ça n'a donc rien à voir avec une banque bio si d'aventure les banques étaient bio.
Exactement. Et alors comment ces échantillons biologiques sont-ils collectés, traités, stockés dans une biobanque ?
Alors donc ils peuvent provenir de différentes personnes, des êtres humains, mais aussi des micro-organismes. Ils sont collectés à travers des traitements, des études cliniques, une prise de sang, une biopsie ou la collection de matériel à travers des micro-organismes dans la nature ou ailleurs. Puis ensuite, ils sont traités pour pouvoir être stockés et conservés dans les meilleures conditions, en général, à température ambiante ou plutôt au froid. Moins 4 degrés, moins 20 degrés, azote liquide.
Ils peuvent être collectés aussi sur un but précis de recherche, où on sait déjà pourquoi on collecte l'échantillon, ou très souvent, ils peuvent être aussi collectés pour des recherches futures. Et là, la qualité de l'échantillon va être extrêmement importante entre les deux utilisations, précises ou futures.
Et alors, peut-être juste une question sur les enjeux, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, des défis en termes de confidentialité ou d'éthique. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les biobanques ?
Alors, comme vous l'avez mentionné, bien sûr, au niveau de la confidentialité, donc c'est tout ce qui sont les défis au niveau de la gouvernance, au niveau des réglementations éthiques légales qui sont extrêmement strictes. Donc pour cela, le participant doit donner son consentement, doit être informé. Les échantillons doivent être collectés sous une sécurité extrêmement élevée. Il y a aussi l'information à la recherche, au droit de retour. Qu'est-ce qui se passe avec ces échantillons? Est-ce qu'ils sont intégrés dans la recherche et qu'est-ce qu'il en ressort? Donc ça, c'est tout le domaine de la confidentialité. Mais les défis au niveau des biobanques, ils vont beaucoup plus loin. Ils vont sur la qualité, l'harmonisation, de pouvoir proposer à la recherche des échantillons qui soient comparables pour que les recherches soient reproductibles et permettent de développer des nouveaux traitements dont on va parler plus tard. Donc ça, c'est l'interopérabilité. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi la visibilité pour pouvoir promouvoir la recherche, que ces échantillons ne restent pas dans des congélateurs, mais soient utilisés, valorisés.
Mmh. Alors, vous l'avez un petit peu anticipé. Maintenant qu'on a un peu posé le cadre, j'aimerais qu'on se tourne vers les opportunités, les perspectives que présentent les biobanques concrètement. Quelles sont les applications des biobanques dans la recherche médicale, par exemple ?
Précisons d'abord qu'il y a plusieurs types de biobanques. On peut garder du matériel à but thérapeutique, un échantillon qui a été prélevé chez un donneur, par exemple, peut être conservé et puis administré à un patient. Il est conservé dans le cadre d'une biobanque. On peut avoir des biobanques thérapeutique, diagnostique par exemple, vous avez fait un test diagnostique pour une maladie ou pour une analyse particulière, on peut garder l'échantillon pour faire des analyses ultérieurement. Et puis il y a les banques qui sont à visée plutôt de recherche, où on collecte les échantillons dans le but d'avoir des informations pour pouvoir amener de nouvelles thérapies par exemple. Alors, prenons l'exemple des médicaments. Vous pouvez imaginer introduire un nouveau médicament et puis analyser chez ceux qui ont reçu le médicament à travers du matériel biologique stocké dans une biobanque si par hasard il y a une modification de récepteurs sur une cellule, de protéines dans le sérum qui a été collecté et d'évaluer l'effet potentiel de ce médicament sur ces biomarqueurs.
Et j'ai pu lire que les biobanques pourraient grandement contribuer à la médecine de précision, par exemple, et à l'amélioration des soins de santé personnalisés. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi, et en fait, pourquoi, qu'est-ce qui est novateur finalement avec les biobanques? Pourquoi est-ce qu'on en parle plus maintenant?
Alors, l'avantage d'avoir du matériel biologique de patient, par exemple, c'est que ça reflète en fait l'état du patient. Si vous prenez une étude sans échantillons cliniques, sans biobanque, eh bien vous aurez les informations liées aux symptômes, à l'examen clinique. Mais évidemment, le fait d'avoir du matériel biologique, du sang, du sérum, du tissu, peut vous donner une information très précise sur l'état du patient à un moment T, par exemple. Et on peut, évidemment, avec toutes ces informations, reclasser potentiellement des maladies et des groupes de patients qui sembleraient tous avoir la même pathologie, mais en fonction des informations collectées dans la biobanque, ils peuvent être redéfinis pour peut-être éventuellement des options thérapeutiques qui pourraient être différentes en fonction de ces caractéristiques.
On a parlé, le sujet du biobanking est arrivé un peu plus dans le débat public avec le séquençage du génome. Et tout à coup, on s'est dit, pour la recherche, il y a besoin de beaucoup d'échantillons biologiques. Et donc, du coup, pour séquencer, il faut un échantillon. Et puis, l'impact aussi sur la santé, c'est que, on parle beaucoup de médecine de précision dans l'oncologie, où on améliore, avec le séquençage du génome, on va pouvoir proposer aux patients un traitement qui soit plus adapté, c'est-à-dire où le traitement est plus efficace en fonction de sa génétique, et puis où les effets secondaires aussi peuvent être plus faibles. Donc ça a vraiment, grâce à ça, permis de parler un peu plus des biobanques, d'arriver un peu plus dans le domaine public avec le séquençage, et de démontrer l'importance des biobanques. Mais comme je dis, les biobanques, c'est toujours un outil, c'est un maillon de la chaîne. Donc c'est pas en tant que tel les biobanques qui vont avoir un impact, mais c'est on a besoin des biobanques pour pouvoir approfondir la recherche et offrir un retour au niveau de la santé.
Et ce que je comprends en vous écoutant, c'est aussi que les biobanques présentent aussi un intérêt en termes de collaboration et de partage en fait, de ces informations, notamment en termes de recherche médicale. Et en termes de collaboration internationale, par exemple, est-ce que vous auriez des exemples qui démontrent comment les biobanques peuvent aussi aider à cette collaboration internationale ou contribuer à cette collaboration internationale ?
Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le gros problème, c'est qu'on crée des biobanques et donc on a beaucoup d'échantillons qui restent dans les congélateurs et qui doivent être utilisés et valorisés pour la recherche. On aurait tendance à recollecter ou collecter à nouveau un échantillon quand on a une recherche précise, plutôt que d'aller voir déjà sur ce qui existe, de vraiment valoriser ce qui est déjà là, de le faire avec des normes de qualité élevées qui permettent la réutilisation en collaboration avec d'autres biobanques. Et pour cela, on est, au niveau suisse en tout cas, on fait partie d'un réseau européen qui s'appelle BBMRI, dans lequel les pays européens collaborent et mettent en commun, à travers des catalogues d'échantillons, toutes les biobanques en Europe, donc pour favoriser cette recherche-là. Mmh. Donc la collaboration, elle est essentielle, parce que la recherche, elle ne se passe pas au niveau d'une université, mais elle est justement internationale.
Vous avez par exemple, vous voulez faire une étude sur des patients qui ont des problèmes de reins, et vous vous dites j'aimerais étudier le tissu rénal, au lieu de prélever de manière prospective du tissu rénal qui va peut-être vous prendre des mois, voire des années, vous pouvez vous adresser potentiellement à une banque dans un autre pays qui a déjà ce matériel, en se disant voilà, on va utiliser ce matériel, on va valoriser ce matériel qui a été stocké ailleurs pour faire cette étude sur le tissu rénal ou autre.
Donc ça, c'est vraiment un intérêt notable. Est-ce qu'il y a des obstacles, des défis ou des risques particuliers à une telle collaboration au niveau international ?
Les défis sont plutôt dans un état d'esprit. C'est qu'on doit vraiment amener les chercheurs à oser partager, à beaucoup plus partager entre eux au niveau local, national, européen, international. Et d'avoir confiance au fait dans ce qui a déjà été stocké ou que ce qu'on stocke, ce n'est pas pour notre recherche. Donc c'est plutôt ça le défi. Il est plus dans un changement de paradigme, changement d'état d'esprit qui permettent ces collaborations beaucoup plus, de manière beaucoup plus efficace et pas uniquement dans des réseaux déjà existants.
Peut-être une question subsidiaire par rapport à ça qui me vient. Donc il n'y a pas d'obligation de la part des chercheurs, par exemple, de déposer les résultats de leur recherche ou des échantillons dans des biobanks. C'est-à-dire que c'est un choix non seulement de le déposer, mais d'utiliser l'existant.
Alors précisons que toute recherche qui fait appel au biobanking nécessite que la personne, le patient par exemple, doit avoir donné son autorisation. Et le matériel appartient quelque part toujours à cette personne. Donc il faut bien préciser ces éléments dans ce qu'on appelle le consentement pour que, également, ces tissus, ces fluides ou ce matériel puissent être aussi utilisés par des gens extérieurs au pays, parce qu'il y a aussi des lois qui sont liées à la recherche et qui peuvent parfois limiter certaines pratiques, et les lois ne sont pas toujours les mêmes dans tous les pays.
Alors avant qu'on passe au CAS en biobanking que vous dirigez, quelles sont les perspectives d'avenir pour les biobanques? Je pense notamment en termes des liens qui peuvent être faits ou non avec le numérique, avec l'intelligence artificielle par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment.
Dans le biobanking, ce qui est important, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'harmonisation des processus pour avoir des échantillons de qualité et des infrastructures de qualité. Pour viser cette harmonisation, il y a d'ailleurs une nouvelle norme ISO qui est sortie spécifique aux biobanques en 2018 et qui aide beaucoup cette pratique-là. Maintenant, dans l'harmonisation, c'est les processus, et le numérique peut aider énormément à avoir des processus beaucoup plus interopérables, et là, la numérisation est clé. Aussi, dans ces processus-là, les erreurs humaines peuvent aussi beaucoup péjorer la qualité des échantillons. Donc l'automatisation aide également beaucoup. dans la continuité, je pense qu'on n'a pas encore étudié ça, mais l'intelligence artificielle peut-être pourra aussi aider dans cette voie-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'exemple concret. Mais vraiment, la numérisation, elle aide à diminuer les erreurs humaines et à améliorer la qualité vraiment des processus qui doivent être mis en place.
Voilà, alors professeur Villard, vous êtes donc un des directeurs de cette nouvelle formation, le CAS en biobanking, avec la professeure Caroline Samer. Et docteur Cura, vous faites partie intégrante du comité directeur du CAS en tant que directrice exécutive de la Swiss Biobanking Platform, qui est un partenaire clé de cette formation. Parlez-nous un peu de ce nouveau programme de formation continue, donc le CAS en biobanking. Quels sont les objectifs pédagogiques et les compétences que cette formation vise à atteindre ?
Alors, le biobanking s'adresse bien sûr à la recherche en premier lieu, mais ce qu'on réalise, c'est que comme c'est un maillon de la chaîne, justement dans cette recherche-là, il peut toucher un grand nombre de personnes. Et sensibiliser au biobanking est devenu essentiel, et autant pour les chercheurs, mais on voit que c'est beaucoup plus large que ça, de se dire c'est quoi le biobanking. Quand on parle de médecine personnalisée, la société est intéressée, les patients sont intéressés à ça. Pour passer, pour évaluer un protocole de recherche, on doit passer par les commissions d'éthique. La santé publique peut être aussi touchée. Donc, la visée de ce CAS en biobanking n'était pas uniquement de s'adresser aussi aux chercheurs, mais de profiter de ce CAS pour essayer de sensibiliser beaucoup plus largement de ce qu'est un échantillon, ce qu'est une biobanque, qu'est-ce qui doit être mis en place, en s'adressant en trois modules. Et le premier module permet de vraiment être dans une approche très très large, très très simple, assez pratico-pratique, de se dire c'est quoi une biobanque, et de plus en plus aller dans le module 2, s'adresser au laboratoire, au processus opérationnel, et au module 3, vraiment les experts au niveau de la qualité.
Et alors, donc, on comprend donc, qu'il y aura peut-être un profil de participants plus large pour le premier module, mais de manière générale, quels seront les profils de ces futurs participants et quelles seront a priori leurs attentes ?
Alors, il faut bien comprendre que il y a beaucoup de personnes qui peuvent être impliquées dans le biobanking. D'abord, il y a ceux qui vont, par exemple, initier des projets de recherche. J'ai une idée et j'ai besoin de matériel biologique. Donc, ces gens-là doivent comprendre comment est-ce qu'on collecte les échantillons, quels sont les processus qui vont permettre la création de cette biobanque pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, il y a toute l'équipe qui va finalement collecter et gérer ces échantillons. Ça paraît simple à dire, mais si vous collectez du sang et que vous devez isoler les cellules, c'est quelque chose de finalement de pas si simple que ça. Si on veut pouvoir conserver ce matériel de façon vivante, entre guillemets, donc ça demande des ressources et des compétences particulières. Ensuite, il faut que ces échantillons soient stockés dans des lieux qui sont parfaitement adéquats, avec évidemment toutes les qualifications requises. Par exemple, si vous imaginez de devoir stocker du matériel dans de l'azote liquide, bien, il faut avoir l'infrastructure possible. Donc ça s'adresse à la fois aux chercheurs, aux médecins, aux biologistes qui vont initier des projets. Ça s'adresse aussi à tous ceux qui sont associés aux biobanques, ça veut dire les laboratoires de routine aussi, diagnostic et de recherche, et puis enfin l'infrastructure d'une institution où ce sera de plus en plus important d'avoir des personnes en charge de ces biobanques qui sont capables de les faire fonctionner et de garantir le maintien des échantillons dans les conditions requises.
Alors, on est quand même dans une formation continue universitaire d'un certain niveau. Quels sont les prérequis pour s'inscrire à ce CAS ?
Alors, je dirais que là, eh bien, on est évidemment très heureux que ce CAS soit une formation universitaire dans le cadre de l'Université de Genève. Donc, a priori, ce sont les personnes qui qualifient pour cette formation postgraduée qui, normalement, nécessite un master. C'est comme ça qu'on va démarrer, mais on espère très vite pouvoir trouver des solutions pour pouvoir offrir cette formation justement avec des gens qui n'ont peut-être pas atteint ce niveau à travers des passerelles, où il faudra être un petit peu innovant, je pense, pour que un personnel beaucoup plus large puisse bénéficier de ses connaissances et de ses compétences pour que ces biobanques soient vraiment quelque chose d'effectif dans les institutions comme les hôpitaux, les centres de recherche, etc.
Éventuellement via l'approche modulaire de la formation qui permettrait à certaines personnes de suivre un module et peut-être pas s'inscrire à la formation en entier.
Exactement, le module 1, on aimerait aussi pouvoir l'ouvrir à la société, par exemple, les organisations de patients, les commissions d'éthique. Donc je pense que ça serait vraiment très important.
Précisons encore que c'est quelque chose de quand même assez nouveau, ce Casson Biobanking, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Et c'est vrai que c'est un besoin qu'on trouve partout, quels que soient les pays, de devoir garder dans les bonnes conditions des échantillons. Donc l'objectif est aussi d'être extrêmement large, extrêmement ouvert, avec aussi des ouvertures pour des pays qui n'ont pas forcément le même niveau économique, avec des bourses, pour qu'on soit le plus large possible dans l'apprentissage de ces connaissances.
Et alors, étant donné que le CAS traite d'un domaine de pointe et en pleine évolution, notamment d'un point de vue technologique, comment envisagez-vous d'assurer que le contenu du programme reste en phase avec la réalité du domaine ?
Alors, je pense que la collaboration avec la Swiss Biobanking Platform aide, parce qu'on est, au fait pour pouvoir proposer, soutenir les investigateurs et de suivre les avancées, qu'elles soient éthiques, légales, qualité, informatique, du numérique. Donc, en lien aussi avec l'Europe, donc on va assurer cette mise à jour du contenu et proposer également des experts qui viennent de l'Université de Genève, mais aussi du réseau suisse, voire du réseau européen, pour avoir vraiment des petites vues sur l'avis d'un expert dans un domaine ou dans un autre, et puis d'essayer de faire évoluer ces experts en fonction des avancées.
Ajoutons qu'un de nos partenaires est l'Institut Pasteur, qui a déjà une grosse expérience dans le domaine, et on est très très heureux de cette collaboration. D'ailleurs, on apprend beaucoup avec eux.
Et alors, vous nous avez parlé de l'articulation un petit peu du CAS et ses différents modules. Parlez-nous un petit peu du format d'apprentissage et des activités d'apprentissage qui seront proposées aux participantes.
Alors, on va majoritairement proposer un CAS en ligne pour pouvoir l'offrir justement à un public large, mais aussi à des personnes justement qui ne sont pas en Suisse. Donc ça va vraiment être la base de tout le CAS, avec un module 1 vraiment entièrement en ligne et d'autres avec des intervenants dans les modules 2 et 3 qui pourraient être sous forme de petits cours, mais on va éviter les cours sur site au maximum pour pouvoir l'offrir à ce public large. Ensuite, on va travailler aussi avec des articles qu'on va aider, qu'on va disséquer et un tout petit peu commenter au fil du temps. Ça, c'est H7 fait cela déjà dans d'autres cours. La Fondation H7. Donc ça va aussi être une autre manière de proposer un type d'enseignement.
Voilà, alors on approche tranquillement à la conclusion de cet entretien. Vous le savez peut-être, j'ai l'habitude de demander aux experts et expertes qui se joignent à nous de partager quelques conseils avec nos auditeurs et auditrices. Donc, quelles seraient vos recommandations aux personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent au domaine de la recherche médicale, à la médecine personnalisée et éventuellement aux biobanques spécifiquement, et qui envisagent les carrières possibles dans ce secteur ?
Alors moi, après 20 ans, ça fait 20 ans que je suis tombée dans ce domaine, ayant une formation en biologie. Je trouve que c'est un domaine passionnant parce qu'il faut avoir aussi un état d'esprit, c'est très multidisciplinaire. Il ne faut pas avoir envie d'être focalisé sur une question de recherche, mais pouvoir aborder autant le côté éthique, légal, de rentrer dans une norme ISO pour la qualité, connaître l'informatique, la protection des données, favoriser les collaborations. Donc, je pense que c'est un domaine vraiment qui est passionnant et il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et avoir envie de se diversifier.
Je crois que c'est vraiment aussi un domaine clé qu'il faut maintenant pouvoir totalement intégrer, que ce soit dans notre pratique clinique, en tout cas dans les hôpitaux universitaires, pour la recherche. C'est vraiment quelque chose qui a peut-être été un petit peu délaissé. On a tous dans les frigos quelques échantillons là, qu'on a gardés en se disant « Ah oui, on va pouvoir les utiliser pour faire des publications ». Mais non, c'est un vrai métier. Et c'est assez passionnant de voir l'importance que ces échantillons biologiques ont justement pour avancer dans la recherche, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, au niveau thérapeutique. Aujourd'hui, on a beaucoup de traitements qui sont basés sur des cellules, sur des tissus, et c'est aussi du biobanking qu'il faut pouvoir manager, si je peux dire, comme cela, de façon parfaitement optimale. Donc ça concerne la recherche, mais aussi les personnes qui prennent en charge des patients tous les jours, et puis aussi tout ce qui va autour, bien évidemment.
Voilà, et maintenant, une dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle, mais que nos auditeurs et auditrices apprécient particulièrement. Quel serait un livre, un article, un film qui vous aurait influencé et que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent? Peut-être une suggestion chacun?
Alors, un film lié au domaine, qui est Bienvenue à Gattaca, qui montre...
qui est le film préféré de notre directrice, d'ailleurs, du centre.
D'accord. Et qui montre à quel point la beauté de la science, mais avec tous les risques qui doivent être vraiment encadrés. Et je crois que c'est vraiment les biobanks, c'est aussi ça, quoi. L'encadrement qui est au bénéfice de la beauté de la science, on va dire.
C'est intéressant, j'aime beaucoup ce film aussi, mais je n'avais pas du tout fait le lien avec les biobanks. Je le reverrai en y pensant la prochaine fois. Merci.
Alors moi, je n'ai pas trouvé de film. En tout cas, s'il y a un film, ça doit forcément être dans un environnement très froid. Parce que de manière générale, pour garder les échantillons, il faut que ce soit très froid. Alors, quant à un livre, je pense à un livre que je conseille à tous les jeunes médecins, qui s'appelle « L'œuvre de Dieu, la part du diable » de John Irving, qui raconte les périples d'un obstétricien dans un orphelinat, et ça montre aussi un peu le yin et le yang entre qui est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, et où est la frontière. Et c'est vrai que la gestion des échantillons, parfois, nous pose un problème. Ça peut paraître très compliqué de construire une biobanque. Ça demande de l'énergie. Et est-ce que c'est vraiment toujours utile? Parce qu'il y a malheureusement énormément d'échantillons qui sont stockés et qu'on n'utilisera jamais.
Merci infiniment pour ces références que nous mettrons dans les notes de l'épisode. Professeur Villard, docteur Christine Cura, un grand merci pour votre présence aujourd'hui et pour cette discussion passionnante sur les biobanks et les perspectives qu'elles offrent pour la recherche médicale. Un grand merci également à Michel Raymond pour la technique, ainsi qu'à nos collègues Tobias Verli, Doris German et Gabriel Real de Azoua pour le travail de diffusion autour des épisodes, et à très bientôt sur Lifelong Learning à Tunis, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève.
Merci.
Merci.
Podcast Unige.